Nous avons constitué une masse de manœuvres où se mêlent nos soldats et les soldats britanniques et qui, par sa mobilité, peut barrer partout la route à l'invasion.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. 1939-1940, la drôle de guerre fut-elle vraiment si drôle? C'est la question à laquelle nous essaierons de répondre toute cette semaine. Une question sous forme de boutade pour évoquer un sujet, la guerre, qui franchement ne prête pas à sourire. Mais je n'y peux rien, c'est ce nom, drôle de guerre, que l'histoire a retenu pour désigner le début en France de la Seconde Guerre mondiale, depuis la déclaration de guerre en septembre 39 jusqu'à l'offensive allemande de mai 40. Une période étrange où la France est en guerre, mais où curieusement, il ne se passe rien, du moins en apparence. Une guerre bizarre, sans combat, sans assaut, sans grande bataille, sans bruit. Une guerre d'attente. Des photos d'époque en témoignent. Des soldats scrutant le ciel avec des jumelles, guettant d'hypothétiques avions. D'autres aidant les paysans aux travaux des champs. Image fameuse aussi du théâtre des armées où Maurice Chevalier, Fernandel ou Joséphine Baker viennent distraire la troupe et remonter son moral. L'expression « drôle de guerre » aura son équivalent en anglais, la « phony war », la guerre bidon, et en allemand la « Zitzkrieg », la guerre assise. En France, elle est inventée, semble-t-il, par les soldats eux-mêmes, puis popularisée par l'écrivain Roland Dorgelès, qui en octobre 39 réalise un reportage aux armées. « Tous les soldats, écrit-il, ont le sentiment que ce n'est pas encore la guerre, la vraie guerre, la terrible, que leurs pères leur ont racontée et dont ils ont lu les récits. » Et oui, 20 ans après, la Grande Guerre est dans toutes les mémoires. On l'entend, pour ces soldats, le mot « drôle » a plus le sens de bizarre, d'étrange que celui d'amusant. Mais avec le temps, le second sens prendra le pas sur le premier. On finira par dire que les Français d'alors, sur le front ou à l'arrière, vivaient dans une dangereuse insouciance et que, finalement, les malheurs qui allaient leur tomber dessus, ils les avaient bien cherchés. Car après la défaite de 1940 et l'occupation allemande, la drôle de guerre sera jugée sévèrement, rendue ni plus ni moins responsable de l'effondrement de la France. Les Français, ne voulant pas se battre, seraient entrés en guerre à reculons, minés selon les uns par le pacifisme, selon les autres par l'esprit de jouissance né du front populaire. Tandis que l'armée française, sûre de sa supériorité, aurait adopté frileusement une stratégie attentiste, planquée derrière sa ligne Maginot, en total décalage avec la Blitzkrieg que l'armée d'Hitler allait lui infliger. Le plus étonnant, c'est que ce discours, sévère et honteux, a la vie dure encore aujourd'hui. Mais au-delà des idées reçues, qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que les Français, gouvernement, armée, peuple, ont fait ou n'ont pas fait durant cette drôle de guerre? On en parle toute cette semaine avec vous, Fabrice Grenard, bonjour.
Bonjour.
Fabrice Grenard, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance.
France Inter. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
En nous dressant, Français, contre la plus effroyable des tyrannies, en faisant honneur à notre parole, nous luttons pour défendre notre terre, nos foyers et nos libertés. J'ai conscience d'avoir travaillé sans trêve et sans répit contre la guerre jusqu'à la dernière minute. Je salue avec émotion et avec tendresse nos jeunes soldats qui vont accomplir maintenant le devoir sacré que nous avons nous-mêmes accompli. Ils peuvent avoir confiance dans leur chef, digne de ceux qui ont déjà mené la France à la victoire. Vive la France!
Le 3 septembre 1939, la France, par la voix émue d'Édouard Daladier, déclare la guerre à l'Allemagne. Fabrice Grenard, pourquoi la France déclare-t-elle la guerre à l'Allemagne, conjointement à la Grande-Bretagne? La France ni la Grande-Bretagne ne sont envahies?
Non, mais ça fait déjà un petit moment que les tensions entre la France et l'Allemagne n'ont cessé de s'accentuer. Depuis que le chancelier Hitler est arrivé au pouvoir, il n'a cessé de vouloir revenir en fait sur le traité de Versailles. Et il y a, à partir du milieu des années 30, toute une série d'initiatives, remilitarisation de la Ruhr, Anschluss, annexion de l'Autriche, ensuite annexion des Sudètes. Et à chaque fois, pour essayer de préserver la paix, la France a laissé faire. Mais Il y a une prise de conscience, notamment après la conférence de Munich, hein, en septembre 38, qui a divisé le pays entre munichois et anti-munichois. Mais le fait que Hitler ne s'arrête pas en fait à la simple annexion des Sudètes et va mettre la main sur l'ensemble de la Tchécoslovaquie, on comprend bien que voilà, on ne peut plus laisser faire. Il y a une prise de conscience, d'ailleurs, du côté français comme du côté britannique. Et la France, comme la Grande-Bretagne, se sont engagées à véritablement défendre leur allié polonais en cas d'invasion allemande. Et c'est ce qui se passe le 1er septembre 1939. L'Allemagne, sans aucune déclaration de guerre, envahit la Pologne. Et donc, deux jours plus tard, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Mais pour bien comprendre hein, le contexte, si le pays mobilise à ce moment-là, c'est quasiment la troisième mobilisation en moins d'un an, en réalité. Donc, on sentait bien que la guerre était sur le point d'éclater depuis un petit moment déjà.
Édouard Daladier, on l'a entendu, est très ému d'annoncer cette guerre. On sent que il pense aux jeunes, lui-même, qui a vécu la Première Guerre mondiale.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les dirigeants, quasiment d'ailleurs dans tous les pays, hein, que ce soit l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, tous ceux qui sont aux manettes, qui sont dans les gouvernements en 1939, la plupart sont d'anciens combattants qui ont connu 14-18, et du moins dans le camp des démocraties, France-Grande-Bretagne, ce sont des gens qui ont tout fait pour essayer d'éviter une nouvelle guerre. On sait que ça lui a vraiment coûté à Daladier de laisser les mains libres à Hitler au moment de la conférence de Munich, mais voilà, il a laissé faire. Et là, il y a effectivement dans la voix, on sent que on ne peut plus reculer désormais, il faut faire son devoir, il faut y aller pour en finir.
Calme, résolu, les Français rejoignent leur corps, sachant que c'est pour abattre la plus effroyable des tyrannies qu'ils prennent les armes. Les étrangers, amis de la France, viennent en foule offrir leur service. Le premier jour, 4500 juifs ont déjà signé leur engagement dans la Légion étrangère. La généreuse Légion garibaldienne se reconstitue.
Dès la déclaration de guerre, 5 millions de Français sont appelés sous les drapeaux. De toute la France, les rapports des préfets disent la même chose. Le moral est bon, écrit par exemple celui de Haute-Savoie. On accepte la guerre, sans enthousiasme, mais avec fermeté et conscience de la gravité du moment. Aucune parole défaitiste n'est prononcée. Hitler est jugé comme le responsable. Il n'y a pas pour lui de mots assez durs. Même si, d'une guerre à l'autre, le moment de la séparation reste un drame intime. À Paris, par exemple, une jeune employée de bureau assiste à la gare de l'Est au départ des appelés. Il y a foule. Les pères en uniforme, les mères et les enfants accrochés à eux. Pas de rire, seulement un désespoir qui étouffe. On s'étreint longuement, on s'embrase dans une atmosphère de tragédie. Les hommes grimpent dans les wagons, le train est plein, les employés du chemin de fer donnent des coups de sifflet. Les hommes s'agglutinent aux fenêtres pour serrer des mains, échanger un dernier regard. Fabrice Grenard, quel est l'état d'esprit des appelés français en septembre 39? Est-ce qu'il est très différent de celui d'août 14? Est-ce qu'il ressemble à celui décrit par ce rapport du préfet de Haute-Savoie?
Non, ces sources sont très intéressantes parce que effectivement, elles vont un petit peu, si vous voulez, à l'encontre de ce qu'on dira après la défaite. Il y aura ce discours, les Français ne voulaient pas se battre et sont entrés dans la guerre à reculons, d'où cette défaite en quelques semaines seulement. Mais si on regarde les sources de l'époque, on voit bien que les Français sont prêts à faire leur devoir, tout à fait comme en 1914. On a des Français qui ont compris qu'on ne pouvait plus laisser faire Hitler. Ce qui change par rapport au dernier conflit, c'est que personne ne s'attend à une guerre courte. Tout le monde comprend bien que cette guerre, elle risque d'être longue, d'être terrible. Donc on a des gens qui sont prêts à faire leur devoir, mais qui sont aussi résignés par rapport aux sacrifices qui leur seront demandés.
Pourtant, le pacifisme est très fort aussi dans l'entre-deux-guerres. Mais vous écrivez, Fabrice Grenard, qu'il y a plusieurs degrés de pacifisme.
Oui, il faut distinguer, on va dire, un pacifisme de base avec un pacifisme radical. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pays est agressé, il faut faire son devoir pour le défendre. Et finalement, c'est ça l'état d'esprit dominant. Les pacifismes radicaux, ceux qui, eux, considèrent que, il faut presque préférer une défaite, voire une occupation étrangère à une guerre, en réalité, ils sont très minoritaires dans la société française.
Merci Fabrice Grenard. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la France va s'installer dans la guerre, quelle sera sa stratégie militaire.